CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
1, 2, test. Il va falloir que je monte mon micro aujourd'hui. Hey! Salut! Salut tout le monde! On dirait que je reviens d'une tombe. Là. Je sais pas, je suis sortie du sol. Vous allez entendre que ma voix est étrange. On commence justement à essayer de la retrouver. Qui ça? Moi-même avec moi-même dans les dernières heures. Mais oui, puis il y a certains auditeurs qui avaient, jeudi dernier, levé un drapeau en disant « Pascal, ça grige dans ta voix, ça grige dans ta voix. Y a-t-il quelque chose? » Puis je le sentais moi aussi, mais vendredi, samedi, ça a été l'hécatombe, ça a été terminé. En fait, j'ai jamais perdu la voix de ma vie. Pourtant, je ne fais que l'utiliser pour travailler puis pour papoter dans le quotidien, là. Mais là, c'est arrivé, silence total. J'avais beau tenter d'essayer de crier, d'aller porter ma voix le plus loin possible, il n'y avait rien à faire. Je me suis ennuyée. J'espère que vous allez bien. J'espère que les derniers jours ont été le fun. Merci tellement à Marceau. Quel bon team player. Marceau exceptionnel qui a pris la relève gentiment puis avec tout son cœur pour faire une heure CV. Finalement, l'heure Marceau, l'heure de la Basse-Ville, l'heure avec Nathan, l'heure avec... Puis merci aussi à Audrey Pinchot qui est venue en relève dans Marceau le midi. Je suis vraiment contente, en fait, là, de ça, d'avoir des collègues exceptionnels comme ça qui se sont relayés puis qui prenaient des nouvelles, c'est sûr, mais on riait un peu parce qu'ils voulaient des vocaux puis j'essayais de pas leur en donner. Mais les tannants poussaient toujours plus loin. Ils ont rempli ma boîte vocale à un moment donné d'un segment complet de radio de 25 minutes en essayant de m'appeler pour m'entendre et rire de moi avec vous autres. Mais bon, écoutez, qui aime bien châtie bien, puis je suis la personne qui agace le plus les gens que j'aime autour de moi. Fait qu'il faut bien, quand ça arrive, qu'ils ont des munitions, que ça se fasse comme ça. Mon nom, c'est Pascal CV. On passe l'heure ensemble. On va essayer de la faire au complet, vous et moi. Ça se peut que Marceau se joigne à nous, ça se peut que Jeff Fortin se joigne à nous, ça dépend. Parce que honnêtement, il faut parler pendant une heure, puis seul. On essaie de réaliser cette heure-là ensemble. Ça fait un peu étrange, j'ai l'impression que je vous emporte dans quelque chose que vous n'avez pas demandé, soit m'accompagner dans un rétablissement vocal. Peut-être que ça vous tentait plus d'avoir quelqu'un qui avait une douce voix chaleureuse, mais ça ne sera pas le cas. On va essayer d'avoir ça la semaine prochaine pour vous. On ne l'avait pas en stock, puis chez Pièces d'auto mécanique, je suis allée voir, puis il n'y avait pas de lubrifiant là, à corde vocale. Je pense que ça aurait été un peu dommageable d'aller faire ça. Salut notre ami Martin, chez Pièces d'auto économique. Je veux quand même prendre le temps de vous dire qu'aujourd'hui, c'est magnifique. Si vous avez la chance d'aller prendre le lunch dehors, vous avez la chance d'aller prendre votre pause dehors, c'est le temps. C'est 20 degrés, c'est pas si chaud que ça, mais c'est du soleil à fond la caisse. 20 degrés toute la journée du soleil, 14, c'est ce qu'on a comme température en ce moment dehors, fait que ça pourrait monter jusqu'à 20, puis pour les prochains jours, 22, 24, 26 dimanche, 24 lundi prochain, 27 mardi prochain. C'est magnifique, ce n'est que du soleil. Vraiment contente de vous annoncer ça. Je sais pas si vous avez prévu un week-end exceptionnel, mais vous avez la température pour prévoir ce que vous souhaitez. Merci pour les salutations 418-971-1021. C'est un bonheur de savoir que vous êtes là. Ça a été bizarre de pas vous parler. Hey, mon Dieu, vous êtes donc bien sur Twitch. Salut tout le monde sur Twitch. Caméra en studio, twitch.tv/blvd/FM. Je sais pas si vous vouliez voir si j'avais changé de tête en quelques jours d'absence. Mais vous êtes les bienvenus. Hein? Puis je me suis posé question, comment communiquer avec vous quand ça arrive, un genre de trou noir comme ça? Mais finalement, mes collègues l'ont très bien fait pour moi. Alors, je suis très contente. Là, je peux revenir sur quelque chose qui s'est passé vendredi dernier. Me laissez-vous le faire. Superbe soirée au Capitole de Québec. Je sais qu'on est rendu jeudi, mais mon Dieu, c'était tellement le fun. Je commençais à perdre la voix. Vous allez voir, ceux qui étaient présents, j'ai un peu moins parlé que d'habitude. J'ai fait un peu moins de social parce que justement, je le sentais. Ça me faisait mal, mais ça a été tellement le fun de vous rencontrer à la terrasse des Capitales avec toute la gang. C'était drôle parce que c'était un mélange de soirée de baseball puis soirée des conservateurs. Je sais pas, moi, j'étais pas au courant que ce soir-là, sur la terrasse des Capitales, il y avait aussi cette soirée des conservateurs-là. Fait qu'entre deux bouchées de hot-dog, t'avais un polièvre, t'avais notre cher Gérard Deltel aussi sur place, puis t'avais notre scandale libéral Gould qui était là. On a failli prendre des photos pour vous, mais on s'est dit, ah, c'est quand même comique, mais on veut pas être non plus affiché avec un parti politique, parce qu'il y avait pas de politique là-dedans, il y avait juste des rencontres, puis visiblement, on est toujours en train de les commenter. Hein, commenter leur comportement, leur prise de parole. Puis là, si on prenait une photo d'un coup qu'on était étiqueté, je me souviens, d'une photo que j'avais prise dans le temps avec Bernard Drainville parce que à la joute, il avait fait un doigt d'honneur. Puis, bon, Bernard Drainville était au Parti québécois et tout. Puis, il y avait un de mes amis qui avait fait faire, dans une rigolade totale, là, on était à la radio, tout le monde ensemble, un chandail. On veut un pays avec Bernard Drainville qui fait un doigt d'honneur. Puis, il avait été super joueur. Là, il avait décidé de prendre une photo puis de refaire un doigt d'honneur. C'était vraiment là, de bon goût, en fait. Là, c'était un bon sens de l'humour. Mais il y a tout le temps les maudits trolls qui reprennent ça sur les réseaux sociaux, sans contexte. Puis là, qui s'étaient mis à ramasser Bernard Drainville des années plus tard. J'étais comme, ben voyons, on peut pas rire. Puis, c'est tout le temps pris hors contexte. Mais bon. Là, on part ça en grand. L'heure CV, je suis tellement contente. J'ai jasé cette semaine avec Frédéric Bérard. Normalement, il est le lundi avec nous à l'heure CV. Et là, il va être là un peu plus tard. Et il était sur la route en décapotable avec ce soleil-là. Et il s'en va voir. C'est vraiment plate, les Red Sox. On n'aimerait pas ça pantoute être à sa place. Mais c'est pas de ça qu'on va jaser avec lui. Puis sinon, un grand revenant aussi, Philippe Dubois. On va parler avec lui. En fait, ce professeur en communication publique et politique. Parce que je veux savoir... Qu'est-ce qui est difficile? C'est quoi les défis en ce moment de se prononcer sur des enjeux internationaux, tu sais, avec tout ce qui se passe? Puis vous avez vu sur les réseaux sociaux la genre de chaîne par rapport à la guerre Palestine-Israël, Hamas-Israël. Mon Dieu, j'ai eu de la misère. C'est la première fois de ma vie, je pense. Je pense que c'est la première fois de ma vie en carrière que j'ai eu de la misère à regarder autant, puis à des images, et à autant m'alimenter pour me mettre au courant de ce qui se passait. J'ai une poignée d'émotions qui m'ont envahi. Puis c'est pas une histoire de prendre position dans ce conflit-là. Hein. Je pense que les plus grandes victimes du conflit en ce moment, c'est autant les citoyens d'Israël que les citoyens de la Palestine. Puis c'est un conflit qui perdure depuis tellement d'années où Israël a été absolument virulent envers la Palestine, qu'à un moment donné, le Hamas, petit groupe terroriste à l'intérieur du territoire de la Palestine, a décidé de se venger. Mais... au-delà de ça, c'est tous les civils qui meurent, qui n'ont rien demandé, qui, pour plusieurs, en fait, en plus, dénonçaient ce conflit-là. Et puis si on n'avait pas vu ça en plusieurs décennies, avant même l'attaque fatale qu'on a connue du Hamas envers Israël à l'automne. Mais c'est toutes ces victimes collatérales-là. Puis c'est pas de prendre position, comme je vous dis, mais c'est juste qu'en ce moment, ça dépasse les limites de l'entendement. Puis le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est trop fort dans les répercussions. Puis les enfants qui ont été affectés, les enfants qui ont été tués là-dedans. En tout cas, j'ai vraiment eu de la misère. Puis on va pas analyser ça de fond en comble. Je pense qu'on l'a fait assez dans les derniers jours pendant que j'étais pas là. Mais on va aller jaser de pourquoi c'est complexe de se prononcer. Parce que vous allez voir, là, Joe Biden est accusé d'être initiateur d'un génocide. Partout dans les leaders politiques, ben il y en a qui se font pointer du doigt. Puis pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a de la misère? Puis encore plus en 2024, de se positionner. Est-ce que c'était moins difficile lors des guerres mondiales? Est-ce que c'était moins difficile lors de la guerre du Vietnam? Il y a plein d'affaires là-dedans. Hey, j'ai bien hâte de parler à nos collaborateurs réguliers, mais j'avais encore plus hâte de vous parler à vous. 418-971-1021 pour me dire comment ça s'est passé votre semaine. Je veux tout et merci aussi à ceux qui ont communiqué là, de façon extérieure à Boulevard 102.1. C'est toujours un bonheur. C'est vrai qu'on... Je pense à quelqu'un en particulier qui m'a écrit, j'ai l'impression qu'on se connaît, mais tu sais... Oui, on se connaît, puis je vous connais aussi, mais de loin, un peu plus loin. Le proverbe d'aujourd'hui, les débuts sont souvent effrayants et les fins sont généralement tristes, mais c'est ce qu'il y a entre les deux qui en vaut vraiment la peine. Je trouvais ça très, très beau. Puis petit clin d'œil aussi, à vous tous de me permettre de vivre de ma passion, parce qu'aujourd'hui, c'est journée de sondage radio, puis vous m'avez offert un très, très beau cadeau, autant dans leur CV qu'avec mon fidèle complice, Yannick Marceau. Dans Marceau le midi, on est absolument conquis de ce qui s'est passé dans les chiffres, alors on en parlera un petit peu plus tard, j'ai envie d'avoir cette conversation-là avec Yannick. On part ça avec Vincent Vallière. Allez-vous couler un café, prenez-en un glacé, sinon un quart de pièce, à Boulevard 102.1, dans leur CV. On est de retour à l'émission dans l'heure CV. Hey, je m'excuse tellement pour ma petite voix, mais c'est correct, on se replace. J'espère que vous passez une belle journée jusqu'à maintenant. Nous, c'est l'effervescence totale. Vous le savez, c'est quoi? Journée de sondage en radio. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde est numéro un. Au final, c'est un peu ce que vous allez retenir. Je le sais. Mais je dois vous dire qu'ici, à Boulevard 101, on est... absolument content de nos sondages. C'est en montée, progression constante de sondage en sondage. Puis c'est en partie grâce à vous. La grosse partie vous revient, hein, d'être là, d'embarquer dans nos trips, dans nos petits rêves de jeunes bums. Je nous appelle comme ça à Boulevard 101 parce que j'ai l'impression qu'on est autant dans le sérieux qu'on ne l'est pas. Mais c'est sûr qu'on profite de la vie avec vous. Puis c'est grâce à votre participation qu'on est capable de le faire. Mais il y en a qu'on a à remercier aussi. Et c'est tous les collaborateurs qui décident de faire affaire avec nous et pour vous et aussi pour les animateurs qui sont ici. On a plusieurs connaissances, mais on a surtout des experts qui décident de jaser avec nous puis de s'affilier avec notre station. C'est le cas de Frédéric Bérard, que j'apprécie fondamentalement depuis plusieurs années, avocat, chroniqueur, auteur, qui est là puis qui, en plus, est à veille de partir sur un trip en décapotable, aller voir le Red Sox, puis qui décide de nous jaser parce que lundi, on n'a pas pu le faire ensemble vu l'extinction de voix que j'avais. Salut, Fred!
Salut, t'oublies les Red Sox, oui, mais les Rolling Stones ce soir, particulièrement.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, je trouvais que c'était assez, là. T'allais faire oui, sur le peuple, tout le monde va partir des ondes. Hey, t'es en vacances avant le temps ou quoi, là?
Non, ben écoute, moi je suis rendu à un âge où je prends des vacances quand je peux et quand ça me plaît, qu'est-ce que tu veux. C'est pas Liberté 55 parce que je suis pas si vieux. Mais je profite de cette vie au maximum.
Oui, ça, c'est correct. Je pense que c'est essentiel de le faire. J'ai un peu philosophé là-dessus. Je sais que tu adores faire ça, mais c'est essentiel de le faire. Mais c'est à quel moment de ta vie où tu dois le faire? T'sais, c'est une bonne question ça, à se poser. Sais-tu quand tu as l'argent puis tu as la carrière parce que tu as travaillé tellement fort là-dessus pendant plusieurs années que tu y en es arrivé? Ou c'est justement avant tout ça parce que les obligations viennent quand tu as la famille, l'argent et justement la carrière?
Écoute, c'est un beau dilemme. Moi, je te dirais que je suis de l'école suivante. Quand je vais me retrouver sur mon lit de mort, à quelques minutes de la fin, je vais être capable de me dire la phrase suivante. C'était tout un ride. Merci beaucoup.
Puis ça finit là. Silence radio. Drop the mic en anglais.
Pour répondre à ta question plus en détail, moi, j'ai un décès qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'est le décès de mon ami Benoît, un ami d'enfance à qui j'étais resté très proche, qui est décédé à 40 ans d'un cancer. 3 enfants, et je me suis juré que voilà, tu comprends.
Mais je vois que ça touche foncièrement. Mais ça, il y a tellement d'histoires qui sont dans l'actualité aussi ces temps-ci par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais il y a eu une erreur, en fait, de dossier qui n'est pas arrivé entre les mains de quelqu'un, puis un diagnostic qui s'est fait trop tard. Puis il y a quelqu'un en ce moment à Québec qui a été dans les médias pendant quelques années, qui est condamné. Au final, il est allé faire tous les tests possibles, puis on ne l'a pas rappelé en disant qu'on avait perdu le dossier ou quelque chose qui était tombé en deux cracks, en deux chaises. Puis, quelques années plus tard, continue d'avoir des problèmes, retourne à l'hôpital, puis on lui dit, ben là, attends un peu, là, les métastases sont partout dans ton corps. Il n'y aura rien à faire, mis à part essayer de t'aider à soulager ta douleur. Tu sais ça, Frédéric, je veux dire, moi, si ça arrivait à un de mes proches, je pense que je ferais tout un chemin de croix. J'en reperdrais la voix, fort probablement, pour aller essayer de gratter de fond en comble ce que je peux faire pour avoir justice dans tout ça, parce que ça reste une vie, ça reste un proche. Les erreurs médicales, les oublis, en ce moment, on n'arrive pas vraiment à s'y expliquer. C'est-tu le personnel de la santé qui est moins bon? Pas vraiment. Est-ce qu'on leur en donne trop au quotidien, soit dans les tâches ou dans ce qu'ils ont à accomplir? Est-ce qu'ils sont fatigués? Mais est-ce que toi, en tant qu'avocat, t'es capable de dire « Ouais, il y a des choses pour lesquelles on pourrait gagner en cours si jamais une histoire comme celle-là nous arrive avec des gens qu'on aime ou que ça nous arrive à nous-mêmes. On est oublié du système. »
Bien sûr. Hein? Puis le système de santé québécois est tout croche et tout à fait dysfonctionnel. Et ce n'est pas nécessairement la faute de son personnel. Je pense notamment aux infirmières, aux préposés aux bénéficiaires. Moi, j'en connais plusieurs qui font un travail de fou dans des conditions exécrables. Et moi, je les salue. Les médecins, évidemment, bien, c'est parfois autre chose. Mais et ça peut arriver hein, comme professionnel que tu fasses une erreur. T'sais, nous, les avocats, là, on est assurés par le barreau, on paie des assurances parce que tu peux te tromper. Des fois, il y en a qui font des erreurs de mauvaise foi. Mm-hmm. Il y en a qui commettent des fautes de bonne foi, mais ça reste une faute. Et il y a un fonds d'indemnisation. Il y a toutes sortes de... Il y a des assurances aussi, dépendamment. Bref. Et donc, oui, pour les fautes médicales, c'est exactement la même chose. évidemment. Souvent, c'est un peu David contre Goliath.
Ben, hein, c'est mais... ça, je veux dire, tu as le ministère de la Santé au complet contre toi, dans ce cas-ci, dans ta cause. Tu as le gouvernement, puis tu peux avoir des avocats du gouvernement aussi.
Mais en fait, souvent, c'est les avocats des médecins en question qui sont représentés par les avocats du collège des médecins. Puis ça, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Hein. Quand tu poursuis un avocat, ben souvent, il y a un avocat qui va représenter l'avocat avec le fonds d'assurance.
Mais il faut que tu trouves quel médecin est fautif là-dedans, puis soit capable de prouver que c'est contre lui que tu t'en vas en poursuite aussi. Là.
Oui, exact. Puis c'est sûr que les fautes médicales, c'est pas, les erreurs médicales, ce n'est pas nécessairement évident à prouver tout le temps, hein, parce qu'il y a une part de risque qui est acceptée. Hein. Par exemple, quand tu opères quelqu'un, ben, tu lui dis, vous avez, il y a 5 % de chances qu'il arrive ci, qu'il arrive ça. Bon, ça, ce n'est pas des cas qui nous occupent là, à ce moment-ci. Le cas dont tu parles, ça, c'est un cas qui est nécessairement exceptionnel et qui pourrait, je ne connais pas l'ampleur du dossier, mais d'après ce que tu me dis, qui pourrait amener une poursuite de toute évidence.
Est-ce que si quelqu'un, par exemple, un quidam, un citoyen, une citoyenne, entend ce genre de cas-là dans les médias, il y a une poursuite qui se fait, finalement, ben, peut-être que c'est positif pour la personne qui réclame, mais c'est en même temps, ça ne te ramène pas la personne que tu aimes, on comprend, mais il y a quand même une décision d'aller boucler ce qu'on a trouvé injuste ou dans lequel on a mis toute notre confiance, soit le système de santé du Québec, puis ça nous a déçus. Est-ce que, suite à cette histoire-là, le fait qu'il y a d'autres personnes qui se réveillent, hey, ça m'est-tu arrivé? Et ça pourrait-tu mettre dans le trou, finalement, le ministère de la Santé si jamais plus d'histoires commencent à sortir comme ça puis qu'il y a un recours collectif ou des recours individuels?
Bien, c'est sûr que pour poursuivre le ministère, ça prend une erreur du ministère. Hein? Quand le médecin fait une faute, c'est pas le ministère comme tel, c'est le médecin. Par contre, dans les trucs de données là, que tu parlais tout à l'heure, on a perdu un dossier et autres, là, nécessairement, c'est autre chose. Mm-hmm. Moi, je suis assez confiant face à la solvabilité du ministère de la Santé. Là. C'est le ministère dans lequel on pompe le plus de cash depuis longtemps. Fait que d'après moi, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Par contre, sur la question de quand tu dis d'autres peuvent se réveiller, tu as tout à fait raison de dire, sous réserve de la chose suivante, il y a des délais de prescription. Hein. Tu ne peux pas poursuivre après 3 ans pour un type d'erreur comme celui-là.
Mais admettons que ça t'arrive il y a 3 ans à aller passer des tests, puis finalement, 3 ans plus tard, c'est là où le cancer a pris a progressé. Puis là, ouais. Tu te rends compte que finalement, en posant des questions, quelqu'un n'avait pas fait sa job, il est déjà trop tard.
Ben, écoute, non. De la manière que tu l'amènes, là, c'est autre chose. Okay. Le délai de prescription va débuter, si tu veux, au moment où tu es conscient du portrait, là, ni plus ni moins global de l'affaire. Donc, dans ce cas-ci, toi, tu ne savais pas pendant 3 ans que tu avais un cancer ou qu'il allait avoir un cancer qui allait se déclencher de ce fait-là. Pouf, là, tu as le cancer, tu es capable de faire 1+1. Le délai de prescription va débuter cette même journée-là où tu as compris que ton cancer est imputable à ce que tu viens de décrire.
OK. Alors, c'est différent, tu vas pouvoir le faire comme ça. Hey, je vois le temps qui passe, je sais que tu es attendu pour partir, Frédéric. Je vais juste terminer avec toi sur le sujet qui t'occupe ces temps-ci. Tu fais partie d'un nouveau recours, du moins tu travailles sur une nouvelle cause en ce moment?
Oui. Bien, plusieurs nouvelles causes, ça dépend de laquelle tu veux parler.
Bien, celle qui est avec tout ce qui est orphelin du Plessis puis la SAQ, je ne suis pas sûre que tout le monde a suivi le dossier.
Oui, c'est une grosse affaire, Je suis l'avocat des orphelins du Plessis. Les orphelins du Plessis, pour t'expliquer rapidement, c'est quoi? C'est dans les années 50, le gouvernement de Maurice Duplessis. Écoute bien ça, c'est scabreux, là. C'est très, très difficile à entendre. Pour aller chercher de l'argent du fédéral, a décidé que les orphelins, notamment à Montréal, surtout à Montréal, plusieurs d'entre eux allaient subir des faux certificats médicaux. Avec les psychiatres de l'État, ceux-ci ont délivré des certificats qui expliquait que ces enfants-là, finalement, étaient des fous, comme on les appelait à l'époque. Et du jour au lendemain, on les a sortis de l'école en disant, ben non, t'es fou. Il y en a là-dedans, moi, dans mes clients, qui me disaient, moi, là, à l'âge de 10 ans, là, j'étais un des premiers de classe. Du jour au lendemain, moi puis mes chums, on s'est fait faire des certificats par les psychiatres de l'État. En disant, on est fou, ils nous ont sortis de l'école. Et là, a débuté une série de sévices, Pascal, les viols, évidemment, les agressions sexuelles répétées. Et écoute bien ça, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu vendait ces enfants-là 10 $ à l'Université de Montréal pour qu'on fasse des expériences sur eux, la lobotomie. Parfois, on leur coupait des membres. Et ces enfants-là qu'on assassinait, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, on les jetait dans ce qu'on appelle la soue à cochon. Aujourd'hui, la SAQ, qu'on connaît bien, veut construire un entrepôt dans ce coin-là. Et ce qu'on demande au nom des orphelins du Plessis, c'est de finaliser les recherches archéologiques parce qu'elles n'ont pas été faites correctement pour éviter que la SAQ passe le bulldozer dans des restes humains de ces pauvres enfants qui ont été tués sous commande de l'État. Alors, c'est un petit peu ça le dossier. Je ne veux pas en dire plus parce qu'il y a des négociations en cours. Mais moi, tu sais, on aime bien ça, mais je me souviens sur nos plaques de char. Je ne suis pas si certain qu'on se souvient tant que ça.
C'est quand même un énorme dossier qui a fait beaucoup l'actualité à travers les dernières années. Ce qui m'importe là-dedans, Frédéric, c'est est-ce que tu crois que ces gens-là, même si on s'en va en cour, vont être capables d'avoir un moment donné avec, bon, si l'injustice aussi, ces problématiques-là, je veux dire, c'est des traumatismes là, complets, là, sont réglés, est-ce qu'ils vont être capables d'avoir une vie normale ou c'est condamné?
Bien, leur vie a été complètement bousillée hein, pour des raisons. Si tu dis à un enfant de 6 ans, tu es un fou et tu te fais abuser, l'enfant dit, je vais le dire que tu me violes et que le curé lui dit, tu peux bien dire, anyway, tu es fou, il n'y a personne qui va te croire. Comment cet enfant-là va grandir par la suite?
Oui. Non, non,
Il
c'est un
a
développement.
scrapé des vies humaines. Le gouvernement de Bernard Landry, en 2002, leur a donné une somme parce que eux, tu vois, justement, leur recours était prescrit, justement. Le gouvernement Lucien Bouchard, qui était très proche du clergé, n'a rien voulu savoir, mais le gouvernement de Landry, puis je le salue pour ça, lui, leur a donné une somme minuscule, là, entre 15 puis 25 000 $ de compensation, si on peut dire, ce qui est des peanuts pour avoir ruiné une vie. Tu peux même pas t'acheter une Vaux avec ça. Mais reste que, il y a eu quand même un geste, sauf que là, sur la question de la SAQ, c'est autre chose, parce qu'il y en a des survivants qui sont traumatisés, sachant que leurs amis sont en train, la mémoire de leurs amis, puis les ossements de leurs amis sont en train d'être bousillés par la société d'État. Donc oui, il y aura nécessairement des recours potentiels là-dessus. J'en dirai pas plus pour l'instant, mais on va faire tout ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un semblant de justice dans ce cas-là.
Merci beaucoup, Fred Bérard, pour cette belle conversation-là. Merci d'être venu avec nous pendant justement un jeudi bien ensoleillé dans lequel ton ami t'attend parce que vous allez avoir une méchante belle journée. Les Rolling Stones et les Red Sox, c'est ça. En décapotant pendant 5 heures, c'est ça que t'as dit?
Absolument.
Ben, je viens de l'arrêter, le Rolling Stone. Ça va être correct, ton beau bonheur. Profite-en.
Allez,
Puis
à
merci pour
fond, tout
tout.
le monde.
Merci pour tout. Ton rapport dans ces chiffres-là qu'on a dans les sondages radio aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique journée. Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, auteur. On se retrouve quand tu pourras, mon ami. D'ici là, profite du soleil pour nous.
Comme diraient les Stones, rock on.
Rock on. Ouais, c'est un avocat avec un côte de cuir, les cheveux dans le vent décapotable, puis qui nous parle de tous les sujets possibles. On l'aime, ce Frédéric Bérard-là, même quand on s'obstine avec. Salut, Fred!
Je lève mon verre.
C'est sous le soleil qu'on s'accompagne dans l'heure CV. Ça a monté. On est rendu à 16 degrés. Est-ce que vous allez vous promener aussi dehors aujourd'hui? Je vous le conseille, ne serait-ce qu'une petite marche sur l'heure du lunch, si jamais c'est accessible à vous. Du côté des États-Unis, il y a le jury qui demande à revoir le témoignage de Cohen West et des demandes qui sont faites dans le procès de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. On reviendra un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose qui est loin d'être terminé. Malgré tout, j'asais avec Valérie, hein, que vous connaissez. Bon, c'est experte en analyse politique du côté de la chaire Raoul Dandurand et un peu partout dans les médias. Et Valérie Beaudoin disait récemment que c'est loin d'être ce qui préoccupe le plus Donald Trump en ce moment. Il a l'impression qu'il va gagner puis que ça sera derrière lui assez rapidement. On le voit à New York en ce moment. Toutes les caméras sont braquées sur lui, la main levée et prête à retourner au pouvoir. Pourquoi je fais un lien entre cette future préparation au pouvoir avec Donald Trump et ce qui se passe un peu partout dans notre vie, c'est que les leaders, peu importe où est-ce qu'ils travaillent, ça veut dire dans quel pays ou encore au sein de quel gouvernement, en ce moment, je trouve que dans les dernières décennies, ils n'ont jamais eu autant de spotlight sur eux qu'en ce moment. Pourquoi? Vu les conflits à l'international qui se rendent jusqu'à chez nous. Est-ce que j'ai besoin de développer sur ce qui se passe avec la Palestine et Israël? J'ai l'impression que là, tout le monde en a pris vraiment conscience, puis c'est pas, comme je vous disais, une histoire de prendre son camp, de choisir son camp. C'est vraiment une histoire en ce moment de quelles sont les pertes civiles, les dommages collatéraux de ce conflit-là, au-delà de tout ce qui est religieux et qui est déclaré par-ci ou par-ça en termes de territoire. En ce moment, il y a des habitants autant du côté d'Israël que de la Palestine qui sont décimés. Puis je le dis avec ces mots-là, mais je pourrais le dire avec des mots encore plus humains, mais c'est des pertes vraiment foudroyantes, violentes et qui viennent nous enlever justement les mots de la bouche. Je dis ça parce qu'on a vu un peu partout sur les réseaux sociaux des gens qui pensent aux Palestiniens, aux jeunes enfants qui ont été assassinés. Ça vient nous chercher dans des cordes encore plus sensibles. Mais comment est-ce qu'on réussit à parler de ces enjeux-là quand on est un leader à l'international? Comment est-ce qu'on réussit à prendre position sans prendre position? Parce que c'est beaucoup plus complexe que seulement un conflit, en fait, entre deux communautés. Puis là, il y a bien des gens qui, contre Benjamin Netanyahou, dans les dernières années, soit des citoyens d'Israël même qui étaient rendus en désaccord avec la politique de Benjamin Netanyahou, est arrivé l'attentat du Hamas, un petit groupe terroriste à l'intérieur de la Palestine qui a vraiment violemment assassiné plein d'Israéliens en automne, vous vous rappellerez. Et là, ça a dégénéré tellement que Benjamin Netanyahou était recherchant un certain pouvoir en se disant, bien, on va jouer justement sur ces pertes humaines, sur ces violentes agressions, en disant qu'on a besoin d'être violents, nous aussi, envers la Palestine, le Hamas et tous ses habitants. Mais ce sont des gens quand même qui ont beaucoup moins de ressources, qui sont beaucoup moins équipés et en ce moment, ça se voit. Loin d'être facile parce qu'il y a des alliances à l'international, puis des alliances qui sont assez fragiles et importantes avec ce qui se passe justement en Ukraine, avec la Russie. Et là, je pourrais développer avec la Chine, je pourrais développer avec bien des choses. Je vais vous dire quand même une chose. C'est difficile de se positionner quand un enjeu... Attention, là, ça va paraître très, très, très froid, économique et d'alliance, et de l'autre côté, un enjeu humain. J'ai voulu en parler avec mon ami et expert en communication publique et politique, professeur à l'ENAP, Philippe Dubois. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu, et il est au bout du fil. Salut, Philippe.
Salut, Pascal. Très heureux d'être là.
Ah, c'est vraiment un plaisir pour moi aussi. En passant, merci pour ta contribution à l'émission. Tu as ta grande part dans ces beaux sondages-là qu'on a à Boulevard 102.1. Puis, merci aussi de vouloir aborder un aspect qui est un peu sensible, qui est un peu fragile, hein, parce qu'on veut toujours être humain. Je me rappelle pas, dans les dernières années, quelque chose qui m'a autant touché puis que j'ai dû fermer même certains articles ou certaines vidéos dans les dernières heures parce que je trouvais ça difficile à aller m'informer sur ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Mais il faut en parler parce que c'est bien plus que juste défendre des citoyens. C'est difficile se prononcer en tant que leader, surtout quand toutes les caméras sont sur nous, les autres leaders qui vont analyser ce qui sera dit dans la communication politique, justement, d'un président. Je sais que tu n'es pas spécialiste des relations internationales, mais en ce moment, les conflits mondiaux prennent beaucoup de place en politique québécoise ou canadienne. On parlait récemment à Boris Proulx qui couvre, tout ce qui est politique canadienne, toujours aux côtés de Justin Trudeau, puis il disait ça prend toutes ces semaines maintenant. Mais même si le Québec et le Canada ne sont pas directement impliqués, Philippe, comment est-ce que ça vient autant prendre de place dans notre quotidien?
Bien, tu sais, tu as raison de toute l'introduction que tu as fait. Parfois, on en parle de façon très froide, un peu détachée. Je pense que ce genre de dossier-là nous rappelle que la politique, au fond, c'est profondément humain, puis que même lorsqu'il y a des tragédies, même lorsqu'il y a des situations qui sont déplorables, ben les élus, peu importe le niveau, sont appelés à prendre des positions, puis c'est jamais simple, c'est jamais aussi simple que ce qu'on voudrait l'entendre. D'autant plus qu'on vit dans une ère mondialisée où nos entreprises, nos citoyens, nos gouvernements ont des liens à l'international avec d'autres acteurs. Donc, il y a une espèce de, faut le voir comme une grande toile d'araignée tissée où si quelqu'un prend position, ça peut avoir des répercussions un peu partout. Puis j'ai envie de dire qu'à l'ère des médias sociaux, où on voit plus facilement puis plus fréquemment une partie de ce qui se passe ailleurs, où on a des images, où on a accès au terrain sans y être directement, puis à l'ère où les gens sont de plus en plus mouvants, c'est-à-dire que les gens se déplacent, où on a maintenant, plus que jamais, sur nos territoires, des diasporas, donc des citoyens canadiens, québécois, qui sont aussi citoyens ou d'origine d'ailleurs, donc qui sont concernés par les conflits d'une façon plus personnelle, plus concrète, bien, ça vient complexifier le truc et ça vient complexifier la prise de position. Prendre position aujourd'hui, c'est pas juste prendre position à l'international, c'est de prendre position au sein d'alliances, puis c'est de prendre des positions aussi vis-à-vis des parties de notre population seront peut-être pas d'accord pour plein de raisons avec la décision qu'on va prendre.
Mais ça, ça demande quand même beaucoup de connaissances, de discussions pour être capable de se positionner en tant que leader mondial. T'as-tu l'impression qu'on est encore dans ces années où les canaux de communication sont ouverts entre tous les pays ou presque, où ça a été négligé à travers les dernières années parce que suite aux guerres mondiales, aux grandes guerres qu'on a connues, on était un petit peu dans une ère de, plus pacifique, là, plus occidentale. Puis finalement, justement, on s'est fait dépasser par d'autres comme la Russie, comme la Chine, qui ont décidé de se parler un petit peu plus puis d'être un peu, sous la couverture, mais quand même de faire leurs affaires. As-tu l'impression qu'on a manqué le bateau?
Bien, j'ai des collègues chercheurs qui, eux, seraient prêts à défendre cette thèse-là, de dire que le Canada ne joue plus le rôle qu'il jouait avant sur la scène internationale, que le brand, la marque Canada à l'international, qui, rappelons-nous, à l'époque, était vu un peu comme le casque bleu mondial. D'ailleurs, les casques bleus, c'est une invention canadienne, mais qui était l'intermédiaire, le négociateur, la personne qui arrivait lorsqu'il y avait des problèmes, qui trouvait des voies de passage.
Il y avait un certain poids, là, mais plus maintenant. Là.
Tout à fait. Il y a plusieurs chercheurs, des collègues chercheurs à l'international qui remettent en question cette version-là de l'histoire. Et c'est vrai aussi que le monde s'est complexifié, où il y a de plus en plus, c'est plus simplement un pays qui mène le bal. Il y a des jeux d'alliance, puis il y a aussi des, si on revient à la communication politique, il y a aussi des intérêts à se positionner pour ou contre certains grands joueurs mondiaux. Et ça rend le truc plus complexe pour les leaders pour se positionner. Puis comme nous, comme citoyens, ça rend les choses un peu plus complexes pour interpréter ce qui se passe aussi. Parce que quand notre voisin est né ailleurs, il y a une vision peut-être différente de la nôtre, mais aujourd'hui, on peut cohabiter sur le même territoire et avoir la même citoyenneté, puis avoir des visions du monde complètement différentes et être confronté beaucoup plus souvent à ce choc des idées-là. Et donc, comme citoyen, pour comprendre véritablement ce qui se passe, ça vient complexifier les choses et ce ne sera pas sur les médias sociaux qu'on va trouver toutes les réponses à nos questions.
Non, assurément. Mais justement, l'impact sur la politique intérieure, c'est quoi, Philippe Dubois? C'est quoi l'intérêt à prendre position quand on est un politicien au fédéral ou encore au provincial ou même au municipal?
Oui, tout à fait. On en voit des politiciens municipaux qui prennent position. Tu sais, je pense qu'il y a, toujours en politique, cette dualité entre le cœur et la tête. C'est-à-dire il y a des politiciens, puis je pense que c'est le cas de la majorité d'entre eux, qui ont des convictions personnelles et profondes, ne serait-ce que philosophiques ou par leur vécu, qui ont envie de prendre position. Ceci dit, aujourd'hui, c'est les politiciens représentent des populations qui sont segmentées, qui sont diversifiées, qui proviennent d'un paquet de coins de la planète. Donc aujourd'hui, un politicien canadien, par exemple, qui voudrait prendre une position ferme, tranchée, claire, dans le conflit israélo-palestinien, non seulement c'est très risqué sur le plan international, mais même sur le plan interne, où on sait qu'on a une population juive canadienne importante et on a une population arabe canadienne importante, ça peut avoir des conséquences dans la politique intérieure et on voudrait surtout pas créer des problèmes internes sur la base de problèmes externes. Hein? Je pense qu'il y a un enjeu véritablement de cohésion nationale qui doit garder que les politiciens doivent garder en tête lorsqu'ils veulent prendre des positions tranchées.
Et puis là, Philippe, je vais t'amener sur un chemin difficile, un chemin de gravelle, mais assurément dans leur CV, on les prend ces chemins-là, puis tu as le droit de te positionner ou pas, mais elle est où la limite aussi? Parce que on est toujours dans un enjeu difficilement captable entre un commentaire qui va être raciste ou une analyse qui va être raciste ou une analyse qui va être, en fait, basée sur des faits. Il y a des choses qu'on doit nommer, il y a des choses qu'on doit absolument gérer dans un pays, dans une province, dans une ville. Là, je m'exprime. La semaine passée, quand j'avais plus de voix, puis j'ai fait la semaine complète, j'ai parlé de certaines rencontres que j'avais faites dans la ville de Québec, entre autres une famille vietnamienne qui a été, pour les parents, des boat people qui ont réussi à traverser, justement, sans venir au Canada, mais ça a été très ardu. Arrive ici, les seuls emplois qu'ils sont capables d'avoir, même avec un français cassé, ça a été dans la restauration. Ils ont travaillé corps et âme, les enfants ont travaillé corps et âme, et maintenant, ils sont capables d'avoir un certain succès économique, mais surtout un succès d'intégration, parce qu'eux ont été capables, justement, de se retrousser les manches, mais avec plusieurs embûches. Mais quand on tente de parler de leur passé, eux ne veulent pas nécessairement, c'est pas des bons souvenirs, mais ça amène, justement, à avoir une ouverture d'esprit. Une autre famille avec qui j'ai parlé récemment, une famille musulmane qui a vécu des gros défis dans leur pays d'origine, qui ont décidé d'arriver ici, puis que ce sont en fait des Québécois comme vous et moi au final, qui contribuent à faire rouler l'économie, à faire rouler la société, qui travaillent, qui sont très inclusifs. Mais ça reste que dans ces enjeux-là, quand on voit ce qui se passe à l'international, on a toujours une peur de l'autre qui peut s'installer pour des raisons qui sont légitimes. Il faut le dire, il faut le nommer, ça. Il y a des raisons religieuses qui sont légitimes, qu'on ne veut pas nécessairement qu'elles soient appliquées ou laissées passer ici au Canada. Mais ce n'est pas toutes ces personnes-là immigrantes qui amènent cette vision-là ou cette façon de faire-là. Bien au contraire, pour plusieurs, ils la fuient. Comment est-ce que dans une position tranchée, en tant que leader, on peut réussir à ne pas attiser le racisme ou encore à ne pas passer aussi à côté de certains enjeux qu'on ne souhaite pas implanter ici au Canada?
Oui, je comprends le raisonnement. Puis c'est justement, je pense, qui explique pourquoi les politiciens, lorsqu'ils font convenablement leur travail, évitent de prendre des positions très tranchées au couteau sur des enjeux comme ça, parce que tu l'expliques, c'est complexe. Puis les mots ont des conséquences, surtout en contexte québécois où on a beaucoup parlé du racisme, en guillemets, d'une partie importante de la population. Puis les études en sciences politiques viennent raffiner l'analyse. Alors, au Québec, on n'est pas nécessairement raciste, c'est-à-dire qu'on n'a pas une haine de l'autre, mais il y a un enjeu de xénophobie, c'est-à-dire qu'on a une peur, une crainte, une insécurité chez une partie importante de la population vis-à-vis les autres. Et ce genre de conflit-là peut attiser cette xénophobie-là. Puis c'est pas nécessairement mal intentionné. Puis là, tu sais que tu parles du chemin de Gravel, on est sur un chemin de Gravel.
Oui,
moment, là,
mais il est important, ce chemin-là. Puis je trouve qu'il n'est pas assez abordé. Parce qu'on a peur, justement. Puis je pourrais avoir peur de me ramasser sur le site Sortons et Radio Poubelle ou je sais pas quoi, parce que ils sont. Pourquoi cette fille-là parle de l'enjeu? Puis moi, je suis en train de dire, justement, qu'il faut mettre en lumière ceux qui ne cultivent pas cette peur-là.
C'est ça, exactement. Parce que ce sentiment xénophobe-là est une arme incroyablement utile en politique. Hein? La peur, les émotions négatives, là, si on veut mobiliser des gens, là, c'est dans la boîte à outils, les outils les plus utiles. Puis la solution à ça, parce que comme tu l'as dit, lorsqu'on parle aux gens qui n'ont pas le même vécu, qui viennent d'ailleurs, non seulement ils peuvent nous apporter un éclairage nouveau, mais on voit aussi, puis les études le suggèrent, que lorsqu'on côtoie ces gens-là, bien, le sentiment xénophobe diminue. C'est-à-dire qu'on apprend à les connaître, puis finalement, bien, on se rend compte que c'est pas la fin du monde, puis que c'est des Québécois comme nous, tu sais. Fait que se parler, discuter, se rencontrer, puis le faire dans une façon la plus sereine et la plus raisonnée possible, c'est ça la voie de passage, et non pas tant les positions tranchées, claires, un peu tapageuses, qui, oui, font l'actualité, qui, oui, semblent très claires dans un moment précis, mais qui, au final, peuvent être plus dommageables à long terme que d'avoir une position qui est plus rassembleuse, peut-être moins précise, mais qui a le potentiel de créer moins de divisions à l'interne.
Mais en même temps, il ne faut pas perdre sa crédibilité quant à, par exemple, là, c'est une opinion qui engage que moi, mais l'imam Adil Sharkawi, moi, qui ce gars-là s'en sort depuis tant d'années avec ses propos qui attisent la haine, qui amènent justement des gens à se radicaliser peut-être, le genre d'histoire de famille qu'on entend, de meurtre familial ou encore de violence. On a quelqu'un qui s'est vu être immolé en fait par son ex-mari à Québec dans les rues, il y a ça de quoi, peut-être 6 ans, si je ne me trompe pas. Ça reste que ces drames-là, dus à la religion, la façon de penser, existent, puis il ne faut pas nécessairement les cacher non plus. Il faut être capable, en tant que politicien, puis là, je ne parle pas juste de ces éléments isolés-là ou ces personnes-là, mais en général, de, comment dire, être strident face à quelque chose qu'on ne souhaite pas qui s'implante aussi dans notre communauté. Je pense que la crédibilité, il ne faut pas la perdre aussi. C'est dur, la ligne est mince.
Oui, oui, il faut être capable de nommer les choses quand c'est nécessaire, il faut être capable de mettre notre point sur la table. Mmh. Mais tu sais, c'est comme toute chose. Si à tous les jours t'es outré, si à tous les jours tu cries, si à tous les jours tu mets ton point sur la table, si à tous les jours tu dis que ça n'a pas de bon sens, ben la journée où ça n'a véritablement pas de bon sens et qu'il faut agir, ben si ça fait un an, deux ans, un mandat, deux mandats que tu fais la vierge offensée, bien évidemment que tu seras moins crédible.
Ouais.
Mais actuellement, dans l'heure où on vit, puis je pense que Donald Trump est un bon exemple, il y a plein d'autres leaders au monde qui en sont des bons exemples, jouer la vierge offensée, crier fort, dire que ça n'a pas de bon sens, jouer sur des émotions négatives, c'est payant à court terme en politique.
On l'a vu, effectivement. Peut-être en terminant, c'est quoi les principaux défis pour les politiciens quand ils veulent prendre position sur des conflits étrangers, là? Est-ce qu'il y a des risques à ne pas le faire aussi? En tout cas, c'est apparent pour moi qu'en ce moment, Justin Trudeau, même au sein de son propre parti, il y a des gens qui prennent un peu le côté de la Palestine, un peu le côté d'Israël, mais là, ça vient un peu désorganiser. En même temps, il faut que ça cesse, ces violences-là. Comment est-ce qu'on va se positionner au Canada? C'est la question que tout le monde se pose. Joe Biden est pointé du doigt pour être finalement presque actif et acteur principal parmi les principaux dans le génocide qu'on qualifie du côté de la Palestine. C'est difficile parce qu'en arrière de ça, puis sans vouloir être inhumaine ou autre, t'as les humains, t'as toute la situation d'alliance pour la suite des choses. Est-ce que en prenant position humainement, tu vas ruiner finalement les chances de sauver ce peuple-là à plus long terme parce que tu vas avoir perdu des alliés? C'est un casse-tête immonde. Puis là encore, c'est quoi notre position de façon économique? Les États-Unis qui ont des alliances économiques avec Israël, on veut pas nécessairement... Bon, en fait, personnellement, moi, je ne veux pas que ça soit la décision principale pour laquelle on n'intervient pas, mais ça reste que c'est discuté. Philippe, c'est quoi les conséquences de ne pas se prononcer et ou de se prononcer pour un pays?
Je pense que la principale conséquence de ne pas se prononcer, c'est de créer cette confusion-là au sein même des alliés, des partenaires, voire de la population générale. Ça soulève des questions lorsqu'on n'a pas une position. Mais en même temps, il faut garder à l'esprit que le leader, le rôle du leader, puis la prise de parole publique du leader, c'est une partie de l'histoire. Puis que la diplomatie, les relations diplomatiques, les systèmes qu'on attache derrière pour essayer de faire fonctionner tout ça, souvent ça se fait loin des caméras, souvent ça se fait entre des diplomates qui essaient à la marge de faire des gains, qui essaient de contrôler les choses. Ça, c'est un travail qu'on voit pas. C'est un travail qu'on n'a pas conscience. Mais parfois, il faut que le leader ne prenne pas position pour permettre à cette diplomatie-là de faire des gains. Comme citoyen, des fois, ça a l'air bizarre parce qu'on a l'impression que c'est une action. Mais encore là, parfois, pour prendre une bonne position finale, ça prend beaucoup de travail en amont. Ce travail-là, surtout dans les situations complexes, ben, il est difficile, il prend du temps, parfois ça fonctionne pas toujours, et souvent, en tout cas dans certains cas, ça soulève de la confusion auprès des citoyens qui aimeraient avoir des réponses claires, précises, rapidement, mais parfois c'est pas nécessairement dans l'intérêt que la position tombe rapidement et de façon précise.
Merci Philippe Dubois, professeur en communication publique et politique à l'ENAP. On te souhaite une belle session estivale. Je sais que tu travailles tout l'été. Puis nous, on se retrouve aussitôt que possible dans leur CV.
Salut Pascal, merci beaucoup.
Salut. C'est ce qui conclut, en fait, ce retour au travail pour moi en ce 30 mai. Beau soleil pour tout le monde, profitez-en. Un petit drink, une petite boisson avec de la glace, une petite marche à l'extérieur, c'est 15 degrés, ça peut monter jusqu'à 20. On se retrouve tout de suite dans Marceau le midi. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. Nick, éco-pilote, ouais, ça serait le fun quand même, un petit road trip.